Amen. Bonjour à tout le monde. C'est vrai, c'est comme le dit ce chant, la parole de Dieu, c'est notre pain quotidien, le pain qui nourrit tout notre être, le pain dont nous avons besoin pour vivre. C'est la Bible elle-même qui dit cela. Hein. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, j'aimerais aborder avec vous une thématique qui est souvent associée à la période de Noël. Et cette thématique, c'est la question de la paix. Quand on pense à Noël, souvent on pense à un temps de paix. Il y a même des fois, pendant les guerres, une trêve de Noël, parce que c'est Noël, c'est le temps de la paix. Et c'est quelque chose qu'on trouve déjà dans le texte biblique. Si vous vous rappelez le récit de la venue de Jésus, de sa naissance, notamment dans l'évangile de Luc, la nuit de sa naissance, on a les anges qui vont apparaître aux bergers dans les champs à côté de Bethléem et qui vont annoncer la naissance du Sauveur. Et rappelez-vous ce que disent les anges dans la louange, ils se mettent à chanter la chorale céleste. Ils chantent « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qu'il aime. » Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qu'il aime. On connaît bien ces paroles. Paix sur la terre, parce qu'il y a quelque chose en lien avec la venue de Jésus qui amène la paix. Jésus, c'est le Christ, c'est le Messie attendu, celui annoncé par l'Ancien Testament. Et plusieurs siècles auparavant, avant sa venue, le prophète Ésaïe avait déjà annoncé la venue du Messie avec ces paroles qu'on va lire au chapitre 9 d'Ésaïe, versets 5 et 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ses titres, conseiller admirable, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David, il règnera sur son royaume pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et la justice de Dieu, dès maintenant et pour toujours. Prince de la paix qui vient assurer une paix éternelle. » C'est ce qu'annonce le prophète Ésaïe. Notre Seigneur Jésus est le prince de la paix, celui qui vient établir un royaume éternel où va régner une paix sans fin. Ça, c'est une bonne nouvelle qui est liée à la naissance de Jésus. Mais vous allez me dire, c'est quand même 2025 ans, même plus, que notre Seigneur est venu sur cette terre et on n'a pas encore vraiment l'impression de vivre la paix éternelle qu'Ésaïe a annoncée sur notre terre. Hein. Notre monde, depuis 2000 ans, a connu de nombreuses guerres. Encore aujourd'hui, il y a la guerre dans certains pays. On peut penser à l'Ukraine, Gaza, Israël, mais aussi au Soudan, au Yémen, dans l'est du Congo, RDC, et certainement encore ailleurs. Alors nous, c'est vrai, en habitant en France métropolitaine, on a la grâce d'expérimenter l'absence de guerre, en tout cas guerre conventionnelle sur notre territoire depuis 80 ans. Depuis 1945, c'est 80 ans. C'est simplement la plus longue période de paix que notre territoire ait jamais connue de toute l'histoire connue. Hein. Donc c'est quand même assez une grâce qu'on vit et on doit le valoriser. Il faut reconnaître cela, être reconnaissant pour ça. Mais ça ne veut pas dire forcément que ça durera encore 80 ans de plus. Il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous avez vu ça dans les informations, le chef d'état-major de l'armée française, le grand chef de l'armée, a fait les gros titres parce qu'il a fait un discours devant les maires de toute la France où il les encourageait en disant « En tant que Français, il faut qu'on soit davantage prêt à la guerre, au cas où ça arriverait. » Et voilà. Il y a des menaces qui sont là, il y a ces bruits de guerre. Jésus nous a dit de ne pas nous alarmer, mais quelque part, on pourrait se dire, ouais, c'est bien beau tout ça, paix sur la terre à Noël, mais est-ce qu'on arrive à chanter ça? Comment comprendre cela? alors qu'on est dans un monde qui est encore en conflit. On peut penser aux grandes guerres, mais il y a peut-être aussi des conflits auxquels on est confronté, tout type de conflits, hein, parfois même dans nos familles. On dit souvent que le temps de Noël, c'est un moment où se retrouvent les familles et puis ça finit en dispute à la fin. Mais ouais, il y a pas mal de blagues là-dessus, mais ce n'est pas tout à fait faux parfois. Et pourtant, Jésus, nous dit la Bible, est venu apporter la paix. Et en tant que chrétien, je crois qu'il y a un message particulier qu'on est appelé à porter là. Et on va le voir, nous sommes appelés à être des artisans de paix, des messagers de paix au sein de notre société. Et ce que j'aimerais qu'on essaye de comprendre un peu tout cela aujourd'hui, ensemble. Alors pour commencer, peut-être dire un petit mot sur ce que la Bible appelle paix. Le shalom dans la pensée juive. La paix, le shalom, c'est vrai que c'est à la fois l'absence de conflit. On est en paix quand il n'y a pas de conflit. Mais c'est quelque chose de plus que ça dans la Bible. C'est aussi quelque chose qui est lié au bien-être, à la paix intérieure, à la santé, à l'absence de maladie, au bonheur, à la prospérité. Et vous savez, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, on voit que les Juifs, mais aussi les chrétiens dans le Nouveau Testament, qu'ils soient d'origine juive ou non juive, vont se saluer en disant « paix, paix sur toi ». Shalom en hébreu. Parce que vous voyez, il y a quelque chose de fort. Ce n'est pas juste absence de conflit, c'est quelque chose de plus grand encore. Et la Bible nous dit que Dieu est le Dieu de la paix. C'est un titre qui revient dans plusieurs textes de la Bible. Il est le Dieu de la paix. Parce que tout ce que l'on dit derrière cela, l'absence de conflit, le bonheur, etc., ben tout ce qui est bon, la source ultime, se trouve en Dieu. C'est lui qui apporte la véritable paix. Alors la question, c'est la suivante. Si le Créateur de l'univers, le Dieu, est un Dieu de paix, il a voulu la paix aussi pour nous. Pourquoi est-ce que les êtres humains ne jouissent-ils pas de cette paix? Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Pourquoi est-ce qu'il y a des conflits? Pourquoi est-ce qu'il y a des souffrances? Là aussi, la Bible est assez claire. Tout cela est dû à un conflit fondamental qui est derrière tous les autres, un conflit qui a la racine de tout, celui que nous avons avec Dieu. Rappelez-vous le début de l'histoire. Au commencement, Dieu crée pour l'être humain, qui est un peu le point d'orgue, le clou de sa création, il crée un monde merveilleux. Et ce monde, au commencement, quand on lit le début de la Genèse, c'est un monde en paix. En Genèse 1 et 2, vous trouvez un monde sans guerre, un monde d'abondance pour toutes les créatures. Les animaux et les humains vivent en paix les uns avec les autres. Le premier couple jouit d'une relation joyeuse, vraie, paisible. Et surtout, ils vivent dans cette relation de paix avec le Créateur de l'univers, le seul vrai Dieu. Malheureusement, les premiers humains préfèrent déterminer par eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Ils prennent leur indépendance vis-à-vis du Dieu de paix. Ils se coupent de la seule source de la véritable paix. Et si vous rejetez le Dieu de paix, ben c'est assez logique que vous n'expérimentez plus la paix. Et Genèse chapitre 3 décrit les conséquences de son conflit avec le Dieu de la paix. Tout d'abord, juste après avoir mangé le fruit défendu, Adam et Ève font l'expérience de la honte et de la peur. Ils vont se cacher loin de Dieu, parce qu'il y a une forme de honte, parce qu'ils ont peur aussi de lui. Lorsqu'on se coupe du Dieu de paix, la première chose qui va disparaître, c'est la paix intérieure. Le premier conflit que nous expérimentons, c'est un conflit intérieur. Voilà les conséquences premières du conflit avec Dieu, un conflit intérieur. Nos pensées, nos émotions, notre cœur n'est plus en paix. Pourquoi ? Parce que sans Dieu, il n'y a plus d'assurance pour l'avenir. Il n'y a plus de fondement solide sur quoi nous appuyer. La vie n'a plus de sens. Ça reste du hasard, du... Sur quoi ? Comment être en paix ? Il n'y a plus de point de repère. Ça, c'est la première conséquence, un conflit intérieur lorsqu'on rejette Dieu. Deuxième conséquence du péché, c'est qu'il introduit le conflit dans nos relations. On voit ça dans la Genèse. Vous avez tout d'abord les animaux qui vont devenir parfois des ennemis ou dangereux pour l'être humain et inversement, notamment le serpent. Vous avez aussi la relation entre les deux premiers, le premier couple, Adam et Ève, qui devient conflictuelle. Aussitôt, ensuite, après Genèse 3, vous avez aussi Genèse 4, avec l'histoire de Caïn et Abel, les premiers frères de l'humanité. Et on découvre qu'une relation entre deux frères peut être détruite par la jalousie, par la colère, au point de conduire au meurtre, puisque Caïn va tuer Abel. Loin du Dieu de la paix, c'est la guerre qui entre même dans la famille. Et je crois, et ce que nous dit la Bible, que ces conflits humains, ces guerres, nous pouvons expérimenter aussi dans nos familles, parfois dans nos familles, dans notre travail, là où nous sommes, sont en fait d'abord la conséquence d'un conflit intérieur. Et c'est ce que dit l'épître de Jacques. On va lire ce texte, Jacques chapitre 4, versets 1 à 3, si je peux l'afficher. Jacques écrit cela. « D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous ? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous ? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez, vous vous disputez, vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous demandez avec des mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. » C'est un texte intéressant parce que Jacques montre que mes conflits avec les autres, ce n'est pas seulement dû aux autres, ce n'est pas le monde entier qui m'en veut. Mais c'est parce que c'est d'abord un conflit à l'intérieur de moi-même. Et ce conflit, il est causé, dit Jacques, par tout ce qui est de l'ordre du péché, dans mon cœur. L'égoïsme, la jalousie, la convoitise. Et le péché nous sépare du Dieu de paix. Il témoigne de ma rébellion contre le Dieu de la paix. Vous voyez, tous les conflits trouvent leur source dans un seul conflit, notre rébellion contre le Dieu vivant. Et la question est simple, mais comment notre relation avec le Dieu de la paix peut-elle être restaurée ? Comment restaurer cette relation ? On voit que c'est le cœur du problème. À cause de nos désobéissances, à cause de nos péchés, on est nous-mêmes, on s'est mis comme ennemis de Dieu. On a offensé le roi des rois, qui est pourtant un roi qui est aimant, qui est plein de compassion, qui toutes les bonnes choses que nous avons au quotidien nous viennent de lui. C'est lui qui a tout créé. Et ce roi, face à notre ingratitude, face à notre rébellion, il aurait pu décider d'anéantir les rebelles que nous étions. Il aurait pu envoyer sa puissante armée, mais il a fait un autre choix. Il a envoyé le prince de la paix. Vous voyez, c'est intéressant ce titre pour parler de Jésus, le prince de la paix. Ce n'est pas simplement un ambassadeur, c'est le prince, c'est-à-dire le fils du roi, son fils unique. Dieu a envoyé son fils pour apporter un message de paix. Le fils de Dieu est venu pour offrir la paix avec Dieu, à l'humanité. Avec ce message, vous mériterez de mourir. Mais moi, Dieu lui-même, le Fils de Dieu, Jésus, choisis de mourir à votre place. Parce que je désire une chose plus que tout autre, vivre en paix avec vous. Dans la lettre de Paul aux Éphésiens, on trouve cela formulé ainsi, Éphésiens 2, verset 17. Le Christ est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, l'évangile de la paix. La paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches, c'est en effet par le Christ que nous tous, ceux qui sont juifs, ceux qui ne le sont pas, nous avons libre accès auprès de Dieu, le Père, grâce au même Esprit Saint. Jésus est venu nous apporter cette paix avec Dieu. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Noël. C'est pour ça qu'on peut chanter avec les anges « Paix sur la terre ». C'est la bonne nouvelle de l'évangile de paix. Le roi des rois a envoyé son Fils unique pour nous offrir la paix. Et si nous acceptons cette offre qui est gratuite, qui est généreuse, alors la Bible nous dit que notre relation avec Dieu, notre relation avec le roi des rois peut être restaurée. En Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes en paix avec notre Créateur. Et nous recevons même son Esprit, l'Esprit Saint, dont l'un des fruits est précisément la paix. Ceux qui ont accepté l'offre du Prince de la paix peuvent désormais faire l'expérience de la joie en leur Seigneur. Ils peuvent vivre sans être dominés par l'inquiétude, parce qu'ils savent que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera leur cœur, leur pensée en Jésus-Christ. Ils reçoivent la paix que le Père donne. Ils font l'expérience de la paix que le Saint-Esprit produit. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile de paix que Jésus est venu amener et qu'on rappelle encore en ce temps de Noël. Mais là, vous me direz, mais d'accord, ok, mais ça ne répond toujours pas à la question. Ça fait 2000 ans qu'il est venu. Pourquoi notre monde n'est toujours pas en paix? Si le prince de paix est venu installer la paix sur la terre, pourquoi est-ce qu'on n'expérimente pas cette paix autour de nous? Pour bien comprendre ça, il faut se rappeler à quel temps nous vivons. Quel moment sur le grand calendrier de Dieu? À Noël, c'est vrai, on célèbre la venue de Jésus il y a maintenant 2025 ans, peut-être même un peu plus, sur cette terre. Mais en tant que chrétien, et c'est souvent durant cette période avant Noël aussi qu'on rappelle cela, nous attendons aussi son retour. Si Jésus est venu inaugurer le royaume de Dieu en venant sur cette terre il y a 2000 ans, il est monté au ciel et il doit revenir pour l'établir pleinement sur la terre. Et en attendant, c'est le temps de la patience de Dieu. En un claquement de doigts, le Tout-Puissant pourrait réduire à néant tous ses adversaires. Mais le roi est patient. Un jour, Jésus viendra soumettre ses opposants. Un jour, tout genou fléchira devant lui quand il reviendra. Ce jour-là, le roi viendra instaurer le règne éternel de paix sur la terre. Mais ce jour n'est pas encore là. Pourquoi? Parce que Dieu est encore patient avec ses ennemis, avec ceux qui s'opposent à lui. Et aujourd'hui encore, c'est le jour où il offre et il rappelle que nous pouvons être pardonnés, restaurés et faire la paix avec Dieu. C'est encore le jour où il est possible d'accepter la paix que notre roi nous offre en Jésus-Christ. Ça, c'est le temps auquel nous vivons, le temps de la patience de Dieu. Alors peut-être que ce matin, certains d'entre nous ont du mal à expérimenter cette paix que le Seigneur veut nous offrir. Rappelons-nous que la réponse se trouve dans celui dont nous célébrons la venue à Noël, Jésus, le Prince de la paix. C'est le seul à pouvoir nous apporter la paix véritable. Alors si nous ne l'avons pas encore fait, on peut accepter cette offre de paix et offrir nos vies à Jésus-Christ, lui dire simplement, Seigneur, je veux faire la paix avec toi, je reçois cette offre dont tu as payé le prix à la croix pour moi. Et si vous l'avez encore jamais fait, je vous invite à le faire ce matin. Et si vous voulez qu'on être accompagné aussi, n'hésitez pas à venir voir un responsable ou moi-même après le culte. On peut prier ensemble, on peut vous accompagner. Mais peut-être pour nous en tant que chrétiens, ça nous arrive parfois d'avoir du mal à ressentir, à vivre cette paix. Rappelons-nous que nous aussi, la solution, elle est dans le Seigneur. Prenons du temps dans la présence de Dieu, dans la louange, dans la prière, que ce soit ensemble, en église, mais aussi dans nos maisons, là où nous sommes, au quotidien. Prenons du temps pour nous mettre aussi à l'écoute de la parole de Dieu qui nous rappelle les promesses de Dieu, qui nous rappelle qui il est, son œuvre pour nous. Peut-être que certains d'entre nous ont aussi des difficultés à vivre en paix avec les autres. Il y a des conflits parfois dont nous ne sommes pas responsables. Tout n'est pas toujours notre faute, mais la Bible, on l'a vu tout à l'heure avec ce texte de Jacques, nous invite à réaliser que la racine de nos conflits se trouve généralement dans notre cœur, à nous. Nos conflits sont des symptômes d'un conflit bien plus grave, bien plus profond, celui qu'on a avec Dieu à cause de notre péché. Et en tant que chrétien, il faut qu'on soit prêt aussi à réaliser cela. Et à dire, Seigneur, viens encore sanctifier ma vie, viens changer mon cœur. Est-ce qu'on est prêt à s'incliner devant le prince de la paix, à laisser le Saint-Esprit transformer nos cœurs, modeler notre caractère? Le Dieu de paix est venu en Jésus-Christ, à travers le prince de paix. Est-ce qu'on va courir vers lui pour l'adorer comme on fait les bergers ou les mages? Et accepter cette paix que Dieu nous offre. Ça, c'est vraiment la première étape. Et j'aimerais aussi évoquer une autre chose en lien avec ce message de paix pour nous chrétiens. C'est que si nous avons pris conscience de cela, si nous avons accepté cette paix que Dieu nous offre, si nous essayons de la vivre et de l'expérimenter pour nous, on ne peut pas continuer à vivre comme si de rien n'était. On ne peut pas la garder pour nous, surtout, cette bonne nouvelle de la paix. Et c'est vrai que la paix ne règne pas encore dans notre monde. Et justement, c'est bien à cause de cela que nous qui avons reçu la paix en Jésus-Christ, nous sommes appelés à manifester cette paix autour de nous. Vous connaissez probablement cette parole de Jésus, cette béatitude de Jésus qu'on trouve en Matthieu, chapitre 5, verset 9, qui dit « Heureux les artisans de paix, heureux ceux qui œuvrent pour la paix », c'est ça que ça veut dire, hein ?« Ils seront appelés enfants de Dieu ». Heureux les artisans de paix, ils seront appelés enfants de Dieu. Le Fils de Dieu Jésus-Christ est le prince de la paix. Et en Jésus-Christ, Dieu fait aussi de nous ses enfants. Et parce que nous sommes ses enfants, nous sommes aussi appelés à suivre l'exemple de notre frère parfait, hein, et à être ses artisans de paix, à nous mettre au travail pour œuvrer pour la paix. C'est ce que ça veut dire. Hein. Ce n'est pas les artisans, c'est ceux qui œuvrent, ceux qui travaillent pour la paix. Alors comment est-ce qu'on peut vivre cela? À commencer, vivre cela dans nos familles, sur notre lieu de travail, sur notre lieu d'études, auprès de nos voisins, au quotidien. Hein. Premièrement, je crois que nous sommes appelés à être des artisans de paix en partageant la bonne nouvelle de l'évangile de paix avec les autres. Puisqu'on on a dit que c'était là le point de départ de tous les conflits, c'est notre conflit avec Dieu. On ne peut pas garder cette bonne nouvelle de la paix juste pour nous. On est appelé à être les émissaires de paix du roi. Hein. Il est de notre devoir de proclamer partout que Jésus est Dieu venu nous offrir la paix. À tous ceux qui se rebellent encore contre leur roi, on a une bonne nouvelle à leur transmettre. Le roi veut faire la paix avec eux. Et c'est gratuit. Il nous offre son pardon. Il veut les gracier. Ça, c'est la première chose. Gardons pas cette bonne nouvelle. Puis Noël, c'est un bon moment pour parler de Jésus, hein, autour de nous, dans nos familles. Deuxièmement, si nous voulons être des messagers crédibles, ça ne suffit pas d'annoncer la paix en Jésus. On est aussi appelé à être des messagers qui le vivent et qui manifestent dans leurs relations cette paix. Il y a beaucoup d'exhortations dans ce sens dans la Bible. En Romains 12, verset 18, il est dit « Autant que possible, dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les êtres humains. » Tout le monde. Et là, je crois qu'il faut qu'on soit un peu honnête, on est entre nous, hein. On n'est pas toujours des très bons témoignages, hein, en la matière. Comment est-ce qu'on peut progresser? Et c'est important, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Soyez les artisans de paix, soyez en paix avec tout le monde. Comment on peut progresser pour être des meilleurs artisans de paix? Alors tout d'abord, si nos relations avec les autres, je ne sais pas si c'est le cas de certains d'entre nous, sont particulièrement conflictuelles, c'est-à-dire voilà, tout le temps des disputes, tout le temps des conflits, je n'arrive pas à m'entendre avec quiconque. Et il y a peut-être un signe, comme nous dit Jacques, qu'il y a quelque chose à régler dans mon cœur. Et c'est important pour chacun d'entre nous. On vit tous à un moment ou à un autre, je pense, dans nos vies, des conflits. Hein. Et on n'est pas tous innocents. Je pense qu'aucun de nous n'est innocent à ce niveau-là. Et ça veut dire qu'on a encore besoin de laisser le Seigneur transformer notre cœur. Ce n'est pas normal en tant que chrétien de se fâcher avec tout le monde, de supporter personne. Ça ne correspond pas au cœur de Dieu, au cœur du Christ, qui est marqué par l'amour. C'est contraire à l'Esprit de Dieu. Le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour du prochain. Et on ne peut pas se contenter de dire « je suis comme ça, c'est comme ça ». Non, il y a ce conflit qui est toujours là en nous et qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il faut prendre le problème au sérieux. Laisser l'Esprit de Dieu nous transformer, comme on dit dans notre vision. Se laisser transformer à l'image du Christ par l'Esprit de Dieu. Souvent, les personnes particulièrement blessantes, c'est aussi parfois parce qu'elles ont été beaucoup blessées. Peut-être dans leur enfance, peut-être auparavant. Et si c'est ces blessures-là qui causent d'autres blessures, c'est important. Vous savez, quand il y a des blessures, quand vous avez une blessure, il ne faut pas la laisser s'infecter. Il ne faut pas la laisser pourrir. Alors, prenez ça au sérieux. Allez en parler avec des conseillers chrétiens. Faites-vous accompagner. Remettez ça dans la prière avec des frères et sœurs. Laissez le Seigneur faire cette œuvre de guérison en vous et vous donner sa paix. Ça, c'est la première chose. Travaillez sur son propre cœur. Et laissez le Seigneur surtout travailler notre cœur par son esprit, avec l'aide des frères et sœurs, d'autres et de personnes qualifiées, parce que le Seigneur ne nous laisse pas tout seul. Et c'est comme ça qu'il nous veut nous faire avancer. Autre encouragement biblique pour vivre en paix avec les autres, quelque chose qu'on retrouve dans le message de Jésus, dans les lettres de Paul, dans les lettres de Pierre, renoncer à la vengeance. Nous devons refuser de rendre le mal pour le mal ou l'insulte pour l'insulte. Apprendre à rompre ce cercle infernal du conflit. Alors, renoncer à la vengeance, ce n'est pas quelque chose d'une attitude passive dans le sens que dès qu'il y a un conflit, je me cache ou je me mets sous le tapis. L'idée, ce n'est pas de devenir des chrétiens qui se cachent dans leur abri anti-méchant. Hein. L'apôtre Paul écrit ceci juste après avoir dit « ne vous vengez pas ». Il dit « sois vainqueur du mal par le bien ». Et c'est la tactique du Christ. C'est-à-dire que lorsqu'on m'en fait du mal, je dois faire du bien en retour. Et c'est dur, hein ? Ce n'est pas les mauviettes qui font ça. C'est quelque chose de radical. Mais c'est l'exemple du Christ. Notre Dieu a remporté la victoire sur le mal en donnant sa vie pour nous. Pour ceux qui l'ont insulté, pour ceux qui l'ont méprisé, pour ceux qui l'ont bafoué. Et nous sommes invités à marcher à sa suite en étant des guerriers du bien. Ça, c'est une première chose. On a besoin de l'aide du Seigneur, c'est pas facile. Hein. Mais voilà, c'est pas l'idée de se cacher, mais de rendre le bien, de rompre ce cercle, vous voyez, du conflit. Une autre arme puissante qui permet de réduire à néant de nombreux conflits, et dont parle beaucoup la Bible aussi, c'est le pardon. Notre Seigneur, là aussi, il y va fort hein, par rapport à ceux qui ne veulent pas pardonner leur prochain. Notre Dieu nous a offert un incroyable pardon en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés en Christ et si on réalise la grâce du pardon, si on réalise combien on a été pardonné, la grandeur du pardon offert pour nous, on ne peut pas ne pas pardonner à notre tour, ce que dit la parole de Dieu. Le pardon, c'est vraiment une arme importante pour mettre fin au conflit. Alors, j'aimerais quand même ajouter une petite remarque sur le pardon. Parce que voilà, c'est aussi quelque chose dont on est de plus en plus attentif dans les églises en général à travers le monde aujourd'hui. C'est que parfois, sous prétexte du pardon, on a aussi un peu couvert des personnes abusives, des personnes qui mettent en danger les plus vulnérables. Sous prétexte, il faut pardonner. Hein. Soyons clairs, en cas de maltraitance, en cas d'abus, c'est tout à fait normal de prendre des mesures de protection. Même si l'abuseur est repentant, même s'il a vraiment il a demandé pardon, même s'il y a une démarche de pardon, protéger les victimes, les personnes vulnérables, c'est un acte d'amour. À la fois pour ces personnes, mais vous savez, même aussi pour un abuseur qui serait repentant, l'éloigner, c'est vouloir son bien, parce que c'est une manière de le mettre à l'écart des possible, on va dire, de retomber dans le même péché. Et parfois, même si parfois, il faut prendre la manière un peu forte. Voilà, pardonner. Vous voyez, pardonner, ça implique une démarche, ça implique quelque chose de réel, c'est pas juste dans son cœur. Hein. C'est quelque chose qui invite. Et parfois, ça implique aussi de prendre des décisions pour permettre la reconstruction. Enfin, j'aimerais terminer en nous encourageant aussi en tant que chrétiens à être des hommes et des femmes qui travaillent à la paix plus largement dans notre société. Le prophète Jérémie, qui a vécu à peu près 600 ans avant Jésus-Christ, il a envoyé un jour une lettre à ses frères judéens qui avaient été déportés de force en Babylone, à Babylone, hein. Pour rappel, l'empereur babylonien venait de prendre possession du royaume de Juda de manière très violente. Vous pouvez imaginer le désespoir des Israélites déportés à Babylone. Et pourtant, voyez ce que Jérémie leur écrit de la part du Seigneur. En Jérémie 29, je crois que je n'ai pas mis le texte, mais je vous lis simplement. Jérémie 29, 7, un verset bien connu. « Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé. » et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. Et honnêtement, on doit imaginer un peu la réaction des Israélites. Comment les Babyloniens qui ont rasé nos villes, qui ont pris tout ce qu'on possédait, qui nous ont déportés de force, on doit rechercher la paix de leur ville et de leur pays. Et dans le Nouveau Testament, on trouve plusieurs enseignements qui vont dans le même sens. Face à des gouvernements oppressants, persécuteurs, les chrétiens sont appelés à être des artisans de paix dans leur société. Est-ce que nous avons la même attitude au sein de notre société? Vous savez, on est dans un contexte où la tendance, c'est plutôt à monter les uns contre les autres. Et on sent ça partout, dans beaucoup de pays, à travers le monde. Les médias vont alimenter la peur de l'autre, de celui qui est différent, qui n'a pas les mêmes valeurs, pas la même religion. Et tout est fait pour qu'on soit plus méfiant, qu'on soit plus craintif. Et dans ce contexte, je crois qu'en tant que chrétien, on a un rôle à jouer, d'être différent, d'être de ceux qui refusent d'alimenter les peurs, la haine, les clivages. On veut vous faire croire que tous vos problèmes sont dus à tel groupe de personnes, et mettez ce que vous voulez dans votre tête, ce soit les immigrés, les musulmans, les juifs, les athées, les gens de droite, les gens de gauche, les gens du centre, les chefs d'entreprise, les journalistes, les francs-maçons, les russes, les américains, les chinois. Mettez-y le groupe ethnique, social, religieux, culturel qui vous dérange. Je pense qu'on est tous très différents. Celui qui vous fait peut-être le plus peur. Et moi, j'aimerais vous inviter à faire ce que la parole nous dit. Prenez la décision qu'aujourd'hui, vous n'allez plus avoir peur ou maudire, mais bénissez. Bénissez-les. Priez pour eux. Allez à leur rencontre. Discutez avec eux. Invitez-les à manger si vous en avez l'occasion. Annoncez-leur la bonne nouvelle de paix par vos paroles, par vos actes. Aimez-les comme Christ vous a aimé. Et je crois que c'est, vous voyez, ça sera, si on fait cela, si on arrive à faire ça, à notre échelle, on peut être des artisans de paix dans notre société. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Au pôle emploi du royaume de Dieu, on cherche des artisans de paix. Vous serez des ambassadeurs du roi des rois, des émissaires qui apportent aux rebelles une bonne nouvelle. Vous, votre roi veut faire la paix avec vous. Vous mettrez en œuvre vos compétences, votre énergie pour contribuer à la paix sur cette terre, afin que vos interlocuteurs puissent entrevoir le royaume de Dieu sur cette terre, comme il est dans le ciel. Mais vous ne serez pas tout seul dans cette mission. Hein ? Il y a des millions d'autres émissaires qui œuvrent à vos côtés. Le roi lui-même sera avec vous. Vous recevrez son esprit, un esprit qui produit l'amour, la joie, la paix. Votre salaire, il est dit, heureux. Heureux les artisans de paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Vous serez heureux. Œuvrer à la paix, ben, ce ne sera pas forcément facile. Ça peut attirer des ennuis, hein ? Il y a des prix Nobel qui ont fini de la paix qui ont fini assassinés. Mais le bonheur procuré par ce travail s'en vaut largement la peine. Et enfin, surtout, vous aurez le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, fait de nous ses enfants. Et c'est pour ça qu'il a envoyé le prince de paix à Noël. Alors, qui est prêt à relever le défi ? Qui veut prendre cette résolution en cette période où on rappelle paix sur la terre en Jésus-Christ, d'être des artisans de paix ? Alors on ne se fait pas d'illusions, ce n'est pas nous qui allons arrêter toutes les guerres sur la terre, mais c'est d'être des témoins, témoins de cette paix que le Seigneur veut offrir à l'humanité. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce parce que, alors que nous t'avions rejeté, alors que nos péchés sont un affront que nous te faisons au quotidien, tu nous aimes d'un tel amour que tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, le Prince de la paix, nous annoncer ta volonté, Seigneur, de faire la paix avec nous, sans contrepartie, en offrant toi-même la vie de ton Fils unique, Jésus-Christ, pour nous. Alors, Seigneur, nous voulons d'abord te dire merci. Merci, merci pour cette paix que tu nous offres en Jésus-Christ. Et nous voulons, Seigneur, te dire que oui, nous recevons la paix que tu veux nous donner. Nous l'acceptons. Nous voulons faire la paix avec toi, Seigneur. Et Seigneur, nous, je te prie aussi que tu viennes par ton Saint-Esprit maintenant et durant toute cette période particulière dans les temps à venir, nous donner d'expérimenter au plus profond de nous cette paix qui vient de toi, Seigneur. Seigneur, je te prie que tu nous aides à sans cesse, lorsqu'on sent peut-être le stress ou l'inquiétude nous guetter à nouveau, sans cesse que tu nous aides à lever les yeux et à regarder à toi, à ton amour, à ta grâce, à tout ce que tu as déjà accompli pour nous, à laisser ton esprit nous envahir, à laisser ton esprit nous rendre vivante ta parole, Seigneur, nous aider à la méditer, à la recevoir, à nous en nourrir comme de notre pain quotidien. Et qu'à travers cela, Seigneur, ta paix puisse envahir d'une manière durable dans nos cœurs. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous ne sommes pas un bon témoignage de cette paix que tu nous offres. Pardon pour les conflits. Pardon. Seigneur, viens transformer encore nos cœurs. Viens encore faire ton œuvre. Donne-nous d'être une église, Seigneur, une église qui manifeste la paix que nous avons en Jésus-Christ. Viens faire ton œuvre encore à nouveau parmi nous, dans chacun d'entre nous, dans nos vies, pour qu'ensemble, nous puissions être témoins de ta paix, artisans de ta paix. Et Seigneur, nous voulons aussi penser en cette période à les conflits qui sont à travers le monde, que ce soit les guerres, que ce soit les conflits parfois au sein de notre société, que ce soit dans nos familles. Et Seigneur, nous te prions, envoie ta paix. Aide-nous à être des artisans de paix là où tu nous places. Et Seigneur, envoie la paix. Manifeste ta paix. Que ce soit là un signe d'une paix encore plus grande que tu veux nous offrir, que tu offres à l'humanité en Jésus-Christ. Que ta gloire soit manifestée sur toute la terre. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.
Amen. Merci au Seigneur.